Alors, comme ces jolies bougies vous l'indiquent, nous sommes dans le temps de l'Avent. Donc, nous sommes aujourd'hui, en ce dimanche 10 décembre, le deuxième dimanche de l'Avent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans l'attente de ce que nous fêtons à Noël, la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et alors, vous aurez remarqué que quand vous vous promenez dans les boutiques, parfois la musique a un peu changé. Et qu'on entend des choses qui ressemblent plus ou moins vaguement à des chants de Noël. Voilà. Et puis parfois, ça fait un peu tilt parce que ces chants, ces musiques, nous les connaissons. Nous connaissons les paroles qui sont derrière, qui sont souvent d'ailleurs pas très prononcées. Je l'ai mis ici. Merci. Et en particulier, dans ces paroles, il y en a une qui revient assez fréquemment dans cette période de Noël, c'est Emmanuel. Emmanuel. Alors, je vous invite à lire trois passages dans l'Évangile selon Matthieu qui vont nous permettre peut-être de cerner un peu plus qu'est-ce que c'est que Emmanuel. Et le premier, c'est dans l'Évangile, donc selon Matthieu au chapitre 1. Nous allons lire l'annonce faite à Joseph. Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 18. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère, Marie, étant fiancée à Joseph avant qu'ils soient ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit-Saint. Mais Joseph, son mari, étant juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier secrètement. Mais comme il méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit-Saint, et elle enfantera un fils. » Et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or tout cela arriva, afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant « Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui, interprété, est Dieu avec nous. » Or Joseph, étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, et il prit sa femme auprès de lui, et il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, et il appela son nom Jésus. Nous trouvons donc au début de cet évangile ce double nom de Jésus et d'Emmanuel. Et l'évangéliste, quand il réfléchit, bien des décennies après, puisqu'on peut penser que Matthieu a écrit son évangile peut-être une cinquantaine d'années après ces événements, en tout cas 20 ans après que, au moins 20 ans après qu'il avait vécu pendant 3 ans avec Jésus, il rajoute ce commentaire, comme vous l'avez vu, ce n'est pas l'ange qui le lui dit. L'ange dit à Joseph, tu appelleras son nom Jésus. Et c'est l'évangéliste qui, réfléchissant, se dit, ah, mais finalement, Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. L'extraordinaire nouveauté que cela représente, peut-être que nous ne le percevons pas tellement, nous sommes habitués à ce récit de Noël, Emmanuel, ces chants qui sont une musique agréable, un petit peu le parfum avec les clémentines de la période de décembre. Voilà. Mais en fait, que Dieu vienne avec les hommes, c'est quelque chose d'impensable, d'inconnu. Alors c'est vrai que dans pas mal de mythologies, on voit les dieux descendre de leur Olympe pour venir voir les hommes. Mais enfin, on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui puisse répondre aux besoins des hommes. De la même manière, dans l'Ancien Testament, nous avions ces visions de Dieu. Il est plusieurs fois dit que Dieu descendit pour voir ce qui se passait, en Genèse 6, pour voir... désastre que le péché avait causé dans ce monde, que ce soit en Exode 3 pour voir la misère du peuple d'Israël, et je pourrais continuer les exemples. Mais ces descentes, c'était finalement ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire une façon de parler humaine à propos de Dieu, et non pas vraiment une venue personnelle. Parfois, il y avait cet ange de l'Éternel qui apparaissait, puis on ne savait pas trop, puis hop, il disparaissait. Voilà. Mais ce n'était pas la même chose. Alors, il y avait quand même cette aspiration dans le cœur des fidèles du peuple, et je prends un seul verset dans le prophète Ésaïe, au chapitre 64, le prophète s'écrie « Oh, si tu fendais les cieux, si tu voulais descendre !» Alors, il veut que ce soit le jugement des ennemis, hein, comme le feu brûle les broussailles, comme le feu fait bouillonner l'eau pour faire connaître ton nom à tes ennemis, en sorte que les nations tremblent devant toi. Voilà. Et donc, il voulait que Dieu descende jusqu'à lui. Mais depuis le prophète Ésaïe, 700 ans s'étaient écoulés et Dieu n'était toujours pas descendu. Et puis un jour, il y a cet ange qui apparaît à Joseph et qui lui dit « Ne crains pas de prendre ta femme, celle ta fiancée Marie, parce que ce qui est conçu d'elle, regardez bien, car ce qui est conçu en elle est de l'Esprit Saint. Ce qui est conçu en elle est de l'Esprit Saint. » Alors, l'an dernier, nous avions eu l'occasion de voir Jésus, fils de Dieu, fils de Marie. Donc, il y a cette naissance extraordinaire au sein, dans le corps de Marie, une naissance opérée par le Saint-Esprit. Et alors, l'évangéliste réfléchit à ça. Et il se dit, mais oui, finalement, c'est la réalisation de ce qui avait été annoncé par le même Ésaïe 700 ans, 720 ans auparavant. Or, tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète. Et tout au long de son évangile, Matthieu va égrener ces phrases, « Or, ceci arriva afin que soit accompli, afin que soit accompli, afin que soit accompli. » Parce que cette venue extraordinaire, cette irruption de Dieu dans l'humanité, n'était finalement que le résultat d'une annonce qui s'était faite de plus en plus précise au cours des siècles, quand les prophètes, les uns à la suite des autres, et Ésaïe sans doute en premier lieu, avaient annoncé qu'effectivement, quelqu'un allait fendre les cieux et descendre. Et alors, il y a cette réflexion qui permet de relier ce nom que l'ange demande à Joseph de donner à ce bébé qui va naître, Jésus, et Emmanuel. « Afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant, « Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et alors, ça nous reporte 720 et quelques années plus tôt, du temps du prophète Ésaïe et de cette scène que nous trouvons au chapitre 7 du prophète Ésaïe. Alors, il y a un roi, Akab, c'est un très méchant. Il a même sacrifié ses enfants en les faisant passer par le feu. C'est vraiment un pas gentil. Et puis, il a très peur parce qu'il y a le royaume qui est à côté, la Syrie, qui veut l'envahir. Donc, Dieu lui donne un signe. Et lui donne le signe de cet enfant. Mais ce n'est pas un signe positif, parce que c'est un signe qu'il y allait avoir un jugement sur le peuple. Et cet enfant va naître, il s'appelle d'un doux nom, Maher Shalal Hashbaz, voilà. Et donc Maher Shalal Hashbaz va naître, mais il va naître de façon naturelle. Alors, d'ailleurs, il y a une toute petite ambiguïté sur la façon dont le mot peut être compris, qui justement permet cette double détente, cette double compréhension, qu'effectivement, Maher Shalal Hashbaz est bien né, et puis il y avait cette menace de la Syrie qui venait. Mais finalement, ça n'épuisait pas le sujet. Et pourquoi ça n'épuisait pas le sujet? Parce qu'il faut continuer, chapitre 7, chapitre 8, je ne vais pas les prendre, hein, parce que ce n'est pas le sujet. Et puis début du chapitre 9 d'Ésaïe, et alors là, cet Emmanuel qui vient jusqu'à nous, il porte des noms qui sont très différents. Des noms que nous rappelons, là aussi, très souvent, à Noël. Ésaïe chapitre 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. » C'est deux aspects. L'enfant qui est né, comme un enfant normal. Un fils qui nous est donné, c'est le Saint-Esprit qui vient. Et le gouvernement sera sur son épaule et on appellera son nom. « Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. » Et ce n'est pas le pauvre petit Maher Shalal Hashbaz qui épuisait ces noms-là. Certes pas. Certes pas. Et donc, en plus, il est rajouté à l'encroissement de son empire et à la paix. Il n'y aura pas de fin sur le trône de David et en son royaume pour l'établir et le soutenir en jugement, en justice. Et que trouvons-nous dans l'Évangile? Eh bien, au début de cet évangile selon Matthieu, la généalogie de Jésus, Jésus, fils de David. Et donc, celui qui vient, eh bien, réalise finalement ce qui était attendu depuis 720 ans et que Maher Shalal Hashbaz n'avait pas épuisé, cette venue de celui qui serait le merveilleux conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. Et il est là, dans ce premier-né que Marie enfante et qu'on appelle de son nom Jésus. Et alors là, on comprend mieux pourquoi Jésus, ça fait penser à Matthieu, à Emmanuel. Parce que Jésus, qu'est-ce que ça veut dire ? Jéhovah Sauveur. Et l'ange précise bien les choses. Car tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Et donc le problème qu'il y avait du temps d'Akaz, il avait perduré pendant les 700 ans qui suivaient, et il était le même quand l'annonce est faite à Joseph. C'est le problème des péchés. Et donc le paradoxe, c'est que Dieu vient avec nous, non pas parce que nous serions prêts à le recevoir, parce que nous serions bien, parce que nous pourrions l'accueillir, eh bien, viens chez nous Jésus, tout va bien, etc. Non. Justement pour s'occuper de ce problème majeur de toute l'humanité qui est le péché. Jésus vient pour s'occuper, pour sauver son peuple de leur péché. Et donc il faut que ce soit Dieu lui-même qui vienne sous cette forme d'homme pour s'occuper du problème majeur que nous avons, le problème de nos péchés. Parce que s'il n'y avait pas eu cette intervention de Dieu, nous étions incapables en tant qu'humains de nous sauver nous-mêmes. On avait essayé plein de fois, plein de choses, ça n'avait jamais marché. Alors il faut que Dieu vienne avec nous. Et donc Jésus est l'incarnation de Dieu, c'est Dieu qui vient avec nous. Et alors, quel Dieu c'est ? Et l'évangéliste va tout au cours de son évangile, et Matthieu avait vécu avec Jésus, il avait partagé sa vie pendant 3 ans et demi, il va essayer de percevoir cet homme qui était là, pas différent de lui. Il n'avait pas un visage spécial, il n'avait pas une corpulence spéciale, une taille spéciale, non. Jésus était tout à fait comme vous et moi. Eh bien, qu'est-ce qu'il montre de ce Dieu qui devient avec nous ? Et alors là, nous avons quelques éléments qui nous sont donnés dans l'Évangile. Le premier élément, peut-être, c'est que Jésus, comme je le disais, c'était Dieu avec nous, mais ce n'était pas Dieu avec un visage particulier, une situation particulière. Non, sauf à certains moments. Alors c'est vrai que si je prends par exemple un récit dans l'évangile, toujours l'évangile selon Matthieu, hein, nous allons rester dans Matthieu, au chapitre 14 et au verset 31. C'est un récit que je suis sûr tout le monde connaît ici, c'est le récit de Pierre qui marche sur les eaux. Voilà, les disciples sont dans la barque, grosse tempête, Jésus marche sur les eaux, vient à leur niveau, Pierre descend, il manque de se noyer, Jésus lui tend la main, il rentre dans la barque, et puis dès qu'il rentre dans la barque, plus devant, tout va bien. Et alors, quelle est la réaction de ceux qui étaient dans la barque ? Ils vinrent et lui rendirent hommage, disant « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Dieu est venu avec nous, mais Dieu n'est pas venu avec les tremblements de terre, avec les éclairs, le tonnerre du Sinaï. Là, effectivement, Moïse était monté, mais ceux qui étaient en bas disaient « Oh là 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 là, c'est trop non, on ne veut pas que... Nous, on ne va pas monter à la rencontre de Dieu. Non, on reste loin. » Parce que c'était effrayant. Et quand Dieu vient avec nous en Jésus-Christ, comment vient-il ? Est-ce qu'il vient de manière effrayante ? Non. Il vient de manière cachée. Mais à certains moments, il montre qu'il a un pouvoir, une omnipotence qui est véritablement que divine. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il monte dans la barque, pof, tout s'arrête. Et puis, en plus, on a des récits qui sont d'ailleurs très proches de celui-là. Il avait multiplié les pains juste avant, hein, 5000 personnes qui avaient pu manger, sans compter les femmes et les enfants, 12 paniers de reste, bref. Quelquefois, comme ça, on a le voile qui s'en trouve. Effectivement, on se dit, mais c'est pas un homme, c'est Dieu qui est avec nous, là. Mais quand Jésus lui-même parle de ce Dieu qu'il fait connaître, il dit autre chose. Il dit pas « Regardez comme je peux être puissant quand je le veux. Regardez comme je peux savoir exactement ce que vous pensez les uns et les autres quand je le décide. » ou quand le Père le dit? Non. Qu'est-ce qu'il va dire de lui-même? Et ça, nous l'avons au chapitre 11 de ce même évangile. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, et qu'est-ce que ça veut dire en ce temps-là? C'était justement au moment où Jésus était rejeté par ceux dont il avait été le plus proche, la ville où il avait vécu, où il avait eu sa maison. En ce temps-là, Jésus répondit et dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils voudra le révéler. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Que nous dit Jésus? Personne ne connaît le Père, ce Dieu qui était loin, si ce n'est le Fils qui le révèle. Et effectivement, c'était la mission du Fils que de venir pour révéler ce qu'était Dieu, vraiment Dieu avec nous. Et quand il parle de cette révélation, par quoi va-t-il enchaîner tout de suite? Venez à moi, vous qui vous fatiguez. Le Père que Jésus révélait, le Dieu qui était avec les hommes, ce n'était pas un Dieu qui était là pour dire « Tu dois bien te comporter !» Non, c'est « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. » Dieu est avec nous pour nous dire cela, pas autre chose. Pour nous dire « Venez à moi. » Et Jésus était attirant. Et donc, si nous avions, chers amis, besoin de savoir quel est le Dieu que nous adorons, nous pourrions relire ces versets. La révélation que le Fils nous fait du Père, c'est un Père qui dit par le biais de son Fils, de ce Dieu avec nous, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. » Alors, ce Dieu qui était avec nous, eh bien... Les disciples ont eu de la peine à le discerner, à le comprendre. Et alors, dans l'évangile, toujours selon Matthieu, au chapitre 16, à un moment, Jésus s'est arrêté et a posé la question à ses disciples, qui disent « Les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme. » Et puis, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et alors, l'un d'eux, Simon-Pierre, répondant, dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondant lui dit « Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Dieu venant avec nous dans la personne de Jésus n'est pas venu de manière à ce que immédiatement on perçoive que c'était Dieu avec nous. Et les disciples ont cheminé pendant des mois et des mois, sans doute avec Jésus, avant que la lumière se fasse, qu'il y ait cette scène dans la barque où la tempête s'est arrêtée, etc. Et puis finalement, ils se sont dit, mais oui, finalement, c'est le Fils de Dieu, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc, nous n'avons pas à nous étonner que s'il n'y a pas cette révélation qui est donnée d'en haut, eh bien, finalement, nous ne comprenions pas vraiment qui est Jésus. Dieu n'est compréhensible que par la révélation qu'il nous donne, une révélation qu'il nous fait par grâce. Parce que sinon, c'est un scandale. Parce que nous, nous aimerions un Dieu différent. Nous aimerions un Dieu plus peut-être brillant, etc. Que cet homme qui vient et qui vous dit « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. » Et pourtant, ça répond tellement à notre vrai besoin. Parce que de quoi sommes-nous tous chargés du péché? Et Jésus est Jéhovah Sauveur, celui qui vient nous sauver de nos péchés. Et alors nous avons ce scandale de la personne de Jésus, ce Dieu qui vient sous une forme finalement si inhabituelle, si incompréhensible. On cherchait un puissant vainqueur, le Messie, ça devait être celui qui allait bouter les Romains hors de Palestine. Ben non, ce n'est pas ça. C'est un homme qui est allé de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tout ce que le diable avait asservi à sa puissance. Et alors, ce scandale, de sa personne a conduit jusqu'à la croix. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que sur la croix, la question a été posée, toujours Évangile selon Matthieu, chapitre 27. Évangile selon Matthieu, chapitre 27. Ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête et disant, « Toi qui détruis le temple et qui le bâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Verset 43. « Il s'est confié en Dieu qu'il le délivre maintenant s'il tient à lui, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Et les brigands aussi qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. C'était trop gênant que Dieu soit avec nous sous cette forme-là. C'était trop gênant, donc on veut s'en débarrasser. Je ne veux pas de ce Dieu avec moi. Je ne veux pas de ce type de Dieu avec moi. Et donc, si tu es fils de Dieu, eh bien, montre-le. Eh bien, il l'a montré, mais depuis la sixième heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la neuvième heure. Et Jésus, ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Et le centurion, verset 54, et ceux qui veillaient avec lui sur Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait arriver, eurent une fort grande peur, disant, certainement celui-ci était fils de Dieu. Et donc, qui c'est qui va reconnaître que Dieu est avec nous? Ce n'est pas ces gens qui vint chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais c'est un centurion, un Romain qui était là, il faisait son job. Et puis, il voit cette crucifixion, peut-être en avait-il présidé à des dizaines de crucifixions, parce que c'était son boulot. Et là, je me tenais devant une croix, on le chante parfois dans le recueil des enfants. C'est ça. Ce crucifié à nul autre pareil, et il le reconnaît. Certainement, celui-ci était fils de Dieu. Et il appartenait à un non-juif de reconnaître que celui qui était venu dans un contexte juif, eh bien, était finalement Dieu venu sur cette terre. Alors, face à cette révélation, donc, Emmanuel, Dieu avec nous, quelle attitude, qu'est-ce que nous en faisons? Eh bien, je retiendrai deux points. Il y a à la fois cette compréhension de ce qu'est Dieu. Et rappelons-nous ce Dieu qui nous dit, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et êtes chargés. » C'est cela le message de Dieu avec nous, ce que le Fils a révélé du Père. Et puis aussi, il y a cette adoration qui est nécessaire. Cette adoration, on l'a vu, les disciples dans la barque ont rendu hommage. Juste après l'épisode de l'apparition à Joseph, qu'est-ce que l'évangéliste met comme récit? Il met le récit des mages. Pourquoi le met-il juste après? Parce que les mages ont rendu hommage à Dieu avec nous. Et à la fin de l'évangile, et ça me permet de faire le lien avec mon deuxième sujet, au dernier chapitre de l'évangile selon Matthieu, et je vous invite à lire ces versets 16 à 20 de l'évangile. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre, et l'ayant vu, ils lui rendirent hommage. Et donc, ce Dieu avec nous nous permet de comprendre ce qui est Dieu, et nous aussi nous invite à l'adorer. Que son peuple l'adore à genoux, dans ce si beau cantique 175 que nous avons chanté. Emmanuel, Dieu se fait homme au saint mystère, que son peuple adore à genoux. Et c'est l'attitude qui doit être la nôtre aujourd'hui quand nous avons cette révélation de la part de Dieu. Et donc je poursuis la lecture. L'ayant vu, ils lui rendirent hommage, Matthieu 28, 17, mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle, jusqu'à la fin des temps, on peut traduire jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ah, curieux cela. Parce que même si l'évangéliste Matthieu nous laisse sur ce point-là, nous savons par les autres évangiles, en particulier l'évangile selon Luc et les actes des apôtres, que Jésus n'est pas resté avec ses 11 disciples en Galilée. Il est monté au ciel. Et d'ailleurs, l'évangéliste Matthieu le savait très bien, puisqu'il en parle dans d'autres de ses textes. Et donc, nous sommes dans cette situation un peu bizarre actuellement, où Jésus est là, mais pas là. Il est là, mais pas là. il est à la fois présent dans le ciel et aussi fidèle à sa promesse quand il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Alors, en particulier, il est avec nous quand nous avons un service à faire pour lui. C'est le contexte immédiat de notre verset, puisque Jésus donne ce qu'on appelle « the Great Commission » en anglais. Alors, il n'y a pas la traduction en français. Parce que si on dit la grande commission, c'est pas forcément terrible. La mission mondiale, en tout cas, que Jésus donne à ses disciples ici, avec l'affirmation de son autorité, puis ensuite le fait de faire des disciples de toutes les nations, avec ces deux aspects, de les baptiser et de les enseigner. Et donc, dans le service chrétien que nous avons, quelle que soit sa forme d'ailleurs, nous avons l'assurance que Jésus est avec nous. Mais il me semble que cette façon de voir liée au contexte immédiat n'épuise pas, et loin s'en faut, la force et la puissance et la richesse de cette expression. Je suis avec vous tous les jours, et cela jusqu'à la fin du monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est avec nous? Dans un autre évangile va préciser les choses. C'est l'évangile selon Jean. Et dans l'évangile selon Jean, en particulier au chapitre 14, les disciples sont tristes parce que Jésus va partir et il dit « Que votre cœur ne soit pas troublé, si je m'en vais, je vais revenir. » Ah, alors ça c'est déjà bien. On sait que Jésus est parti, donc il est absent, mais il va être de nouveau présent, donc il va revenir. Donc ça c'est bien. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il dit « Je ne vous laisse pas orphelin, je viens à vous. » Et Jésus vient à nous par l'Esprit qu'il fait habiter en nous. Et par cet Esprit, il peut dire, si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera, et je viendrai à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Et donc, il y a cette habitation de Jésus dans le cœur de chaque croyant et de chaque croyante, par l'Esprit, qui fait que Jésus est rendu présent pour nous. Et c'est le même Jésus qui, spirituellement, aujourd'hui, est présent dans notre cœur. Et donc, ça nous encourage à avoir cette relation. Parce que si quelqu'un est avec moi, est à côté de moi, ben on reste comme ça, on ne se dit rien, on ne se parle pas, on ne se regarde pas, etc. Bon, ok, on est à côté, mais ça ne change rien. Donc, si Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est pour que justement il y ait cet entretien, ce partage avec lui. Et ce partage, il se fait selon les trois axes des moyens de grâce, par la parole où Jésus nous parle, il se rend présent à nous. Parce que quand je lis par exemple l'épisode, celui que je rappelais de la barque, et ça rend quelque chose de Jésus présent à mon cœur. Et du coup, je comprends un peu mieux qui il est. Et puis la prière aussi par laquelle je peux m'adresser à lui. Et puis aussi par la communion des chrétiens. Pourquoi? Parce que chacun de nous reflétons aussi quelque chose, un petit quelque chose de Jésus. Je vois Jésus en toi, dans un sens. Alors bien sûr, très partiel, mais néanmoins, dans chaque chrétien, dans chaque chrétienne, il y a un peu de Jésus que je peux discerner. Et cela, ça rend aussi Jésus présent, en quelque sorte, à côté de nous. Et c'est quelque chose que nous avons à saisir par la foi. Parce que, vous aurez remarqué, dans ce texte de Matthieu, chapitre 28, verset 17, l'ayant vu, ils lui rendirent hommage, mais quelques-uns doutèrent. C'est vrai que c'est pour nous un acte de foi de se dire, oui, Jésus est au ciel, mais il est aussi avec moi, et il est avec moi tous les jours, il est avec moi le dimanche, quand on est ici, donc peut-être ça va, mais il est avec moi le lundi, le mardi, etc. Le lundi, j'ai son amour, c'est pour ça qu'on chante aussi, hein, ce cantique-là. Une flamme en moi. Ah, tiens, une flamme en moi. Une flamme en moi, c'est quoi? La flamme, ça nous fait penser au Saint-Esprit qui est venu la première fois comme des flammes. Ben oui, celui qui avait composé ce chant, il avait peut-être ça en tête. Donc l'Esprit est présent en moi et il nous fait percevoir la présence de Jésus. Mais néanmoins, c'est quelque chose à recevoir par la foi. Quelques-uns doutèrent. Parfois on se dit, est-ce que tu es vraiment là, Seigneur? Est-ce que tu es vraiment fidèle à cette promesse? Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, avec ce ego et imi, hein, moi, je suis, affirmation de sa divinité. C'est Dieu avec nous. Alors nous, on ne le perçoit pas quand on le lit comme ça, mais ceux qui étaient à l'époque, ils le percevaient, parce que le moi, je suis, c'était l'affirmation de « je suis celui qui suis ». C'était l'éternel de l'Ancien Testament. Et c'est ce que l'évangéliste Jean va développer. « Moi, je suis le pain de vie. Moi, je suis la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, etc. Moi, je suis, moi, je suis. » Avant qu'Abraham pût, moi je suis, c'est une affirmation très forte de sa divinité. De sorte que quand Jésus dit, et voici, moi je suis avec vous tous les jours, c'est moi, Dieu, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ça, on peut parfois en douter, on se dit, mais si Dieu, tu étais à côté de moi, si Dieu était avec moi, eh bien, est-ce qu'il se passerait ces choses dans ma vie? Est-ce qu'il n'y aurait pas une intervention puissante? Est-ce que j'attends pas quelque chose finalement, comme les Juifs attendaient que si Dieu venait avec eux, eh bien, ils fondraient les cieux et puis l'espérance d'Ésaïe 64, que les nations méchantes autour seraient anéanties, etc. On attend cette intervention-là de Dieu. Mais si Dieu vient avec nous, si Dieu est avec nous tous les jours, si Jésus dit « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », c'est pour nous dire et nous redire « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. » Alors, bien sûr, nous avons confessé nos péchés. Ce repos par rapport à nos péchés, nous le connaissons, encore que quand nous péchons, et nous péchons tellement si souvent, que nous avons besoin de revenir à cette source de repos, mais le repos aussi par rapport aux circonstances que nous sommes appelés à traverser, à prendre ce joug de Jésus sur nous qui est léger et aisé. Alors, il se peut que dans sa grâce, eh bien, Dieu permette de temps en temps à certaines personnes d'avoir un ressenti spécial de la présence de Jésus. J'entendais l'autre jour Florent Varac, un pasteur ami, qui disait que quand il s'est converti, il venait d'un arrière-plan un peu occulte dans sa famille, et bien il avait ressenti la présence de Jésus. Il disait, c'est comme presque si je pouvais le toucher. Mais il disait, voilà, ça a été à ce moment-là. Après, nous sommes, chers amis, appelés à marcher par la foi et non pas par la vue. Et nous n'avons pas, me semble-t-il, à rechercher de façon mystique, dans une quête effrénée, de ressentir la présence de Jésus comme s'il était là, comme si je pouvais le toucher. Dans sa grâce, Dieu nous accorde parfois ces éléments-là. Peut-être lors de la conversion pour certains, peut-être lors de circonstances particulièrement difficiles pour d'autres. Je pense à deux épisodes de la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, à deux reprises, il est dit « Le Seigneur s'est tenu près de lui. » Oh. Alors pourtant, l'apôtre Paul, en termes de spiritualité, vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même un bon candidat. Et pourtant, il dit « Le Seigneur s'est tenu près de moi. » Parce que, 2 Timothée chapitre 4, verset 17, sauf erreur, eh bien, il avait été dans une situation très difficile lors de son procès devant César. Et là, il avait ressenti de façon toute spéciale la présence du Seigneur. Mais vous auriez posé la question à l'apôtre Paul, est-ce que le Seigneur est avec toi tous les jours? Je suis sûr qu'il aurait répondu, mais bien sûr, il est avec moi tous les jours. Mais là, le Seigneur s'est tenu près de moi parce que j'en avais vraiment besoin. Alors, on comprend dans une situation difficile. Mais aussi, il y a un deuxième épisode, alors là, c'est plus surprenant. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 23, après un épisode assez peu glorieux pour Paul, qui est en procès devant le Sanhédrin, et qui insulte le souverain sacrificateur, qu'il n'était pas vraiment censé faire. Et la nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui et lui dit « Aie bon courage ». Et là, je vois toute la grâce de celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il aurait... C'était un moment où je pense, Paul, de retour, puisqu'on voit qu'après il regrette ce qu'il fait, il dit « ben non, je ne savais pas », et puis après il met un peu le souk en disant juste les paroles qu'il faut pour que ça mette le souk au Sanhédrin. Mais imaginez Paul qui rentre dans sa prison le soir après cette journée pas très glorieuse, et qui se dit « mais j'ai tout foiré aujourd'hui ». Eh bien, ce moment-là, le Seigneur se tint près de lui et lui dit « et bon courage ». Et bon courage. Et donc ça nous montre qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Et celui qui est avec nous n'est pas là pour nous enfoncer quand nous avons été pas à la hauteur, mais il est là pour se tenir aussi près de nous, pour nous dire, eh bien moi je suis là pour te relever et pour que tu puisses aller plus loin. Et bon courage, tu vas pouvoir aller plus loin. Donc, par rapport à ce deuxième texte, Dieu avec nous, Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Eh bien, nous avons besoin de cultiver cette foi dans la présence de Jésus et peut-être et le sentiment de ne pas être abandonné. La période de Noël, elle est sympa quand vous êtes en famille, quand vous avez des amis, etc. Mais quand vous êtes tout seul, ce n'est pas la période la plus sympa de l'année. Vous savez que c'est une période en particulier où il y a une recrudescence de suicides. Noël, Nouvel An, juste après. Où il y a le plus de suicides, c'est le premier lundi, je crois, après le Nouvel An. Voilà. Donc c'est une période qui est difficile, mais sachons tous que nous ne sommes jamais abandonnés parce que Jésus l'a promis et c'est Dieu qui l'a promis. C'est moi je suis qui dit moi je suis avec vous tous les jours et cela jusqu'à la fin du monde. Troisième texte, c'est dans l'Évangile selon Matthieu toujours. Puisque, donc vous avez vu un texte au début, chapitre 1, verset 23, un texte à la fin, chapitre 28, verset 20, ça forme ce qu'on appelle une inclusion, et puis un texte au milieu, au chapitre 18, au verset 20. Alors, dans le mouvement d'église auquel nous appartenons, je pense que c'est sans doute le texte qui est le plus fréquemment affiché dans les locaux de réunion. Matthieu 18, 20, je pense qu'on pourrait... pour pas mal d'entre nous, le réciter, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc ça pose la question, y a-t-il une qualité de présence de Jésus différente le dimanche matin entre 10h30, 35, et 38, et 11h et 12h20, est-ce qu'il y a une qualité de présence différente de Jésus que dans le reste de la semaine? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est une question qui est un peu débattue. Alors, c'est vrai que, vous aurez remarqué, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, et le « en » peut se traduire peut-être d'ailleurs plus justement « vers mon nom ». Donc, c'est vrai que Jésus est présent avec moi quand je travaille, quand je suis dans le RER, etc., à tout moment. Mais... quand on travaille, on travaille. On n'est pas là à prier. On sait que Jésus, par la foi, on accepte que Jésus est avec nous à tout moment. Donc on a accès à lui par la prière si on le veut, etc. Mais on n'est pas tout le temps concentré sur Jésus. La différence, je dirais, qui se passe quand nous venons ici, c'est que nous venons vers lui. Dans ce sens, sa présence au milieu, c'est un peu différent de sa présence avec. Parce qu'il est au milieu... C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, on aime bien disposer les bancs comme ça, un peu en cercle. Il est au milieu, tandis que quand il est avec, eh bien, je peux être occupé à faire autre chose. Tandis que là, le dimanche matin, et c'est dans ce sens-là peut-être qu'on peut comprendre qu'il y a une différence un petit peu qualitative, c'est que nous venons avec l'idée, avec le souhait, avec l'ambition d'aller vers lui et de concentrer... avec toutes les distractions qui sont les nôtres, y compris les miennes, nos pensées et nos cœurs vers ce qu'il est, vers ce qu'il a fait. Alors, ça, on en trouve plusieurs illustrations, en particulier quand le premier dimanche, Jésus ressuscité apparaît aux siens, que ce soit dans l'évangile selon Luc au chapitre 24 ou que ce soit dans l'évangile selon Jean au chapitre 20, vous avez chaque fois Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc il est venu au milieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux chapitre 2, quand il fait ses citations pour illustrer l'humanité de Jésus-Christ, il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée, je chanterai tes louanges », citant le psaume 22, juste après d'ailleurs « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» que nous avons lu en Matthieu 27 tout à l'heure. Donc, il est bien au milieu. Et Apocalypse 5, troisième texte, donc vous avez les textes de la résurrection, Luc 24 et Jean 20, vous avez le texte d'Hébreux 2 et vous avez le texte d'Apocalypse 5 qui nous dit « Au milieu du trône se tenait un agneau comme immolé ». Donc on voit bien que cette position au milieu met en exergue la personne et le souvenir de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc même si Jésus est absent physiquement, comme il est absent physiquement quand il est à côté de nous, le fait que nous venions collectivement entourer Jésus-Christ avec en concentrant nos pensées sur ce qu'il est, eh bien, produit cette qualité, je dirais, un peu particulière de celui qui est au milieu de nous. Mais vous aurez remarqué que j'ai sauté comme chasseur braise sur le contexte de Matthieu 18-20 et que bien souvent ce verset est tiré de son contexte bien à tort. Parce qu'il vient en fait dans la conclusion d'un paragraphe qui commence non pas au verset 20 mais qui commence au verset 15. « Si ton frère pêche ou si ton frère pêche contre toi ». Il y a les deux leçons, elles sont difficiles à discriminer. Et donc, eh bien, va et reprends-le entre toi et lui seul, etc. Des relations fraternelles. Ah, ça c'est intéressant ça. C'est-à-dire que pour que Jésus soit présent au milieu de nous, eh bien, il est important que nous entretenions des relations fraternelles qui ne soient pas polluées par des dissensions, par des problèmes interpersonnels. Et c'est à cette condition-là que nous avons le quart de la fin, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et ce paragraphe détaille ce que je ne ferai pas ce matin, la procédure, entre guillemets, qui peut aller jusqu'à une excommunication, qu'il te soit comme tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà, donc cette procédure progressive, douce, et qui est argumentée. Et les deux ou trois dont il est question, finalement, ce n'est pas pour glorifier le fait que c'est très bien de se réunir. Moins on est nombreux, plus Jésus est là, et plus on est spirituel. Ce n'est pas du tout ça. C'est les deux ou trois dont il était question déjà au verset 16. Le contexte parle par la bouche de deux ou trois témoins. Toute parole sera établie. Donc il est important qu'il y ait deux ou trois pour que ce ne soit pas simplement juste une question purement interpersonnelle qui n'est pas de fondement, mais qui est vraiment attestation qu'il y a bien eu un problème qu'il convient de régler. Et donc tout ça pour dire que la présence de Jésus au milieu de l'Église, c'est sûr qu'elle est très très positive. Qu'ont fait les disciples le jour de la résurrection ? Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Notre première réaction quand nous venons ici pour nous réunir de façon groupés pour aller vers Jésus et qu'il est là au milieu de nous, notre première réaction, c'est de nous réjouir. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous sommes réjouis de ce salut qu'il nous a apporté, de ce que Emmanuel est venu, Dieu avec nous, pour ôter nos péchés. Et donc, c'est la joie. Mais cette joie aussi, eh bien, il faut qu'elle soit contrebalancée dans un sens par le fait que, eh bien, si Jésus est au milieu de nous, on ne va pas tolérer, on ne va pas accepter n'importe quoi, en particulier par rapport à ces relations interpersonnelles. Elles sont très importantes pour Jésus et pour qu'on puisse effectivement vivre cette présence quand nous sommes réunis collectivement de façon adaptée. Et donc, je vous invite à peser aussi ces deux aspects-là. Donc, trois textes en Matthieu, un au début, Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, ça nous donne la révélation de qui est Dieu et ça nous conduit à l'adoration. Deuxième texte, à la fin de l'Évangile. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça nous invite à cultiver la foi dans la présence de Jésus jour après jour à côté de nous et le sentiment que nous ne serons jamais abandonnés. Et puis, Jésus au milieu de nous. Et donc, ça procure cette joie de sa présence, mais aussi ce souci de relations interpersonnelles qui soient soignées et réglées si besoin est. Mais nous savons que nous vivons quand même, c'est sûr que ce serait quand même mieux que Jésus soit à côté, là, présent physiquement. Et il nous l'a promis. Et alors il y a un chant, vous savez on chante beaucoup de chants de Noël en cette période-ci, et il y en a un que j'aime beaucoup, « Oh viens bientôt Emmanuel », je ne sais pas si ça vous dit. « Oh, viens bientôt, Emmanuel, nous délivrer du jour cruel. » Et donc ce chant, je me touche toujours beaucoup, beaucoup parmi les chants de Noël parce qu'il est à double sens. C'est-à-dire « Oh, viens bientôt, Emmanuel », on est à la fois dans ce chant, dans la position de ceux qui attendaient ce Messie et qui appelaient cette venue de Dieu avec nous à l'époque. Ton peuple entier s'attend à toi, briser du péché la loi. Mais aussi, il y a cette aspiration dans laquelle nous sommes, puisque dans cet intermédiaire dans lequel nous nous trouvons, où Jésus est à la fois présent, mais quand même absent, eh bien, nous avons cette aspiration qui est le cri de l'Église, « Amen, viens Seigneur Jésus !» Et donc, « Oh, viens Emmanuel !» Parce que nous avons aussi cette attente et cette aspiration de ce jour, ou alors là, comme nous le dit cette fois-ci le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, Et je terminerai par ces deux versets. Apocalypse chapitre 21, verset 3. Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes. Dieu avec nous. L'habitation de Dieu est avec les hommes et il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. L'auteur de l'Apocalypse réaffirme en tournant les phrases sur différents côtés qu'effectivement un jour il y aura cette habitation définitive, totale et il l'illustre dans la suite de la vision en particulier par le fait que la cité n'a plus besoin de soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'a illuminée et l'agneau est sa lampe. Le Seigneur, le Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et donc nous aspirons et nous sommes dans ce temps de l'Avent. L'Avent par rapport à Noël, mais l'Avent aussi par rapport au retour de Jésus-Christ, pour être avec lui. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. L'espérance qui est développée par Paul en 1 Thessaloniciens 4 est exactement la même. Nous attendons le jour où nous serons définitivement et complètement avec Dieu. Dieu avec nous. Et ce qui était déjà anticipé par la venue physique de Jésus-Christ sur la terre, ce qui est vécu par la foi, par les chrétiens depuis 20 siècles, avec cette présence de Jésus à la fois avec eux individuellement et collectivement au milieu d'eux, eh bien alors deviendra une réalité éternelle et tangible, non plus simplement par la foi, mais la foi et l'espérance auront pris fin. Mais l'amour de celui qui est venu pour nous présenter l'amour de Dieu, qui a été cet Emmanuel témoin de l'amour de Dieu, qui nous le montre encore chaque jour, eh bien, lui demeurera jusqu'en l'éternité.